prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude du sermon sur la montagne. Quatrième partie, le caractère chrétien.
Bible. Alors, on va reprendre notre étude sur le sermon sur la montagne. C'est notre quatrième rendez-vous. On avait ouvert cet enseignement de Jésus par les béatitudes, et puis nous avions poursuivi par ces comparaisons de la vie du chrétien, de l'engagement du chrétien, le sel et la lumière. Et puis nous avions également, la dernière fois, notre dernière rencontre, nous avions parlé de la loi confirmée, le meurtre, le divorce, le parjure. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons nous entretenir sur un sujet qui me semble très important, qui est au cœur même du sermon sur la montagne, c'est-à-dire le caractère chrétien. Alors pour ce faire, on va lire dans le chapitre 5 et une dizaine de versets, chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, toujours c'est Matthieu, et il est question du caractère chrétien, et j'ajoute, inspiré d'en haut. Voilà, c'est précisé, ou tout simplement la force d'aimer, c'est ce qui nous rend vainqueurs de bien des situations auxquelles nous pouvons être confrontés, et particulièrement cette capacité d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Voilà, Jésus donc nous le dit sous cette forme, et je rappelle Matthieu chapitre 5 verset 38. Alors Jésus s'entretient de cette manière, il nous dit: vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà pour notre lecture, et que Dieu nous bénisse et nous enrichisse à travers cette parole d'une grande profondeur. Jésus nous laisse à travers ce sermon sur la montagne des choses, je vais le dire, ineffables. C'est vrai. Parce que elles sont d'une grande simplicité, mais également d'une grande profondeur spirituelle et morale. Nous voyons que, et nous l'avons déjà vu dans les méditations précédentes, Jésus reste égal dans sa façon d'enseigner. Vous avez remarqué comment il fait? Il commence comme ça, « Vous avez appris ». Et ensuite il ajoute, « Mais moi je vous dis ». Il y a ce que il a été enseigné, s'inspirant de la parole de Dieu, mais Jésus, lui, ajoute, « Mais moi, je vous dis, malgré ce qu'on vous a dit, Et il parle naturellement, eh bien, des. Il ramène les principes de la loi. Alors, on a appelé cette façon de procéder, hein, la loi du talion. Œil pour œil et dent pour dent. Alors, vous en connaissez le résultat, parce que ça fait des borgnes et des édentés. C'est le seul résultat, hein, ça ne donne rien de plus. Mais il y a une certaine satisfaction d'avoir... eh bien, peut-être accomplit la justice, alors que ce n'est certainement pas un accomplissement de la justice. On a enseigné, vous avez appris de procéder de cette manière, mais Jésus dit, maintenant, je vais vous dire que ça, c'est révolu. Ça ne sert à rien. Alors, c'est vrai que dans le monde ancien, c'était un principe, hein, qui subsiste encore. Hein. Faut être chrétien pour connaître ce que Jésus nous enseigne d'autre. Il faut avoir un cœur chrétien pour pouvoir comprendre ce qu'il nous enseigne et surtout le mettre en pratique. Alors la loi du talion, talion, du latin talio, talis, qui signifie tel ou comme tel. On vous a fait du mal, vous rendez l'appareil. Vous faites comme tel. Un œil, une dent, un bras, une jambe, comme ça c'est égalitaire. Hein. Mais... on va découvrir que c'est en pure perte parce que quelque part, même s'il nous manque un œil et puis une dent et puis tout le reste, le cœur, lui, est toujours rempli de quelque chose de mauvais et Jésus va aller. C'est pourquoi il va aller plus loin. Vous avez appris, mais moi je vous dis que. Alors, la loi du talion, il s'agit d'une punition identique à l'offense reçue. Règle selon laquelle une offense doit être réparée par une peine équivalente selon la formule, je viens de la citer, l'œil, la dent. Et c'est une loi, peut-être, que nous pourrions appeler loi de police par nécessité. On t'a fait ça, eh bien, le coupable recevra la même chose. Comme ça, c'est vrai que ça semble, eh bien, juste, mais... ça ne doit pas satisfaire. C'est vrai que aujourd'hui, ça subsiste encore, hein, se venger soi-même. C'est pourquoi la loi l'interdit. Hein, on n'a pas le droit de faire sa propre justice. Alors, dans notre société civilisée, où il y a certainement bien des incivilités, il est admis que nul n'a le droit de se faire justice soi-même, parce que c'est un délit. En d'autres termes, tout conflit doit se résoudre devant un tribunal arbitral neutre. Ça, c'est le principe élémentaire. Hein, il ne doit pas y avoir de parti pris, il ne doit pas y avoir de favoritisme, il ne doit pas y avoir, eh bien là, de partialité. À moins qu'une solution soit trouvée à l'amiable. Et on s'arrange. C'est la façon la plus intelligente. Mais... quelquefois, et malheureusement dans les querelles, dans les conflits, eh bien, la passion, la rancœur, hein, ce souci d'avoir raison peut-être, ou d'avoir de dominer l'autre, eh bien, exclut tout conciliabule, toute réconciliation. Alors à ce moment-là, eh bien, il faut aller devant le tribunal. C'est pour ça que Jésus nous dira à un moment donné, si tu viens devant ton Dieu, si tu viens devant l'autel et que tu présentes ton offrande, alors n'oublie pas une chose, que si tu as quelque chose contre quelqu'un, ou si quelqu'un a quelque chose contre toi, enfin ça va dans un sens ou dans un autre, va surtout te réconcilier parce que tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé la dernière pite. Hein. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Dans le code civil, le châtiment doit correspondre au délit. Ça ne doit pas être plus que le délit. Mais ça doit être, eh bien, une application stricte de la justice, en fonction de ce qui a été commis du forfait, du méfait. Jésus appelle la formule de cette manière, ou rappelle la formule, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Or, le Seigneur, par ce qui suit, veut mettre en évidence une vérité. Une vérité très intéressante sur laquelle nous avons, et nous allons réfléchir, une vérité et une réalité plus profonde que la réponse épidermique et immédiate, irréfléchie. Cette loi de justice doit en aucun cas masquer un esprit de vengeance, de haine ou de rétribution personnelle. Ce qui est juste, et ça doit être fait dans l'esprit que Dieu demande. Et non pas avec tous les arrière-plans, tels que la vengeance, la revanche, la haine, et puis de dire, eh bien voilà, les choses seront ainsi, ce ne sera pas autrement. Pour ce faire, Jésus va introduire, et nous l'avons lu ensemble, il va donc introduire une notion révolutionnaire. Je dis bien, je pèse mes mots, révolutionnaire, si elle n'est par surcroît surprenante, c'est-à-dire, il le déclare, « Moi, je vous dis d'aimer même vos ennemis. » Alors là, on se trouve devant quelque chose qui est difficile. Parce que je puisse pardonner à mes amis, que je puisse passer sur certaines choses avec une certaine magnanimité, mais à mes ennemis, jamais. Ah non, ce sont mes ennemis. C'est pas possible, imaginez-vous. Je veux pas leur faire de cadeaux. Quand même, c'est pas possible. Et pourtant, Jésus nous dit, et il le dit calmement, il le dit pour que nous le comprenions, il va nous montrer comment c'est possible de le réaliser, aimez même vos ennemis. Alors, d'abord, il faut que, dans l'introduction de ce que Jésus nous apporte, en premier lieu, il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui est souverain juge. D'abord, c'est lui. Nous pouvons toujours, même en tant que chrétiens, avoir des principes de justice qui s'inspirent de l'Évangile. C'est vrai, nous les avons, nous les connaissons. Mais même en tant que chrétiens, même avec la connaissance que nous avons, même dans ce que nous avons de plus solide, une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Dieu est souverain et que nous resterons toujours des injustes. Et que nous sommes justes par la grâce de Dieu. N'allons pas nous mettre et nous ériger en juge en disant « Seigneur, moi je suis mieux que les autres. Je suis au-dessus des autres. Alors avec ce que je connais, ma fidélité, ma consécration, mon engagement chrétien et tout ça, donc je suis quand même au-dessus. » Alors là, c'est complètement faux. Mon pasteur me disait toujours, il me disait toujours, même lorsque tu fais les choses justement, rappelle-toi toujours que de toute façon, tu n'es pas juste. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une part en nous qui reste tellement imprégnée de la chair, de l'humanité, qu'il y a bien des choses qui nous échappent. Hein. Nous pensons que c'est juste, mais il y aura toujours une part où l'homme pécheur et l'homme injuste est quand même encore là. Donc, il faut s'en souvenir que c'est Dieu qui est le souverain juge et que toute vengeance lui appartient. Ce n'est pas à moi de me venger, mais que Dieu me donne la foi en lui, que Dieu me donne la patience, que Dieu me donne la tempérance pour attendre que lui se prononce. Mais qu'est-ce que nous sommes rapides? Et quand on est en souffrance, quand on nous a fait du mal, quand on nous a humiliés, quand on a attenté à notre réputation, alors à ce moment-là, on veut que ça aille vite. Et vous savez que en matière de justice, si vous n'êtes jamais passé par les tribunaux, vous verrez qu'ils prennent leur temps. Oh là là, certaines situations, elles traînent pendant des mois, pendant des années. Pendant ce temps-là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? On aimerait tellement que les choses soient réglées immédiatement, mais c'est comme ça. Et j'ai compris que parfois, dans ces instances judiciaires, ils attendent, et peut-être que le temps a son effet sur nos vies, c'est que pendant ce temps-là, la passion tombe. Vous savez, on ne juge jamais bien quand on est passionné, parce qu'on est emporté naturellement. Alors, on s'aperçoit que si Dieu a un pouvoir, c'est celui de se venger. Et encore, comment va-t-il le faire? Certainement pas de notre manière, parce que Dieu est saint, et il est juste, et il est vrai. Dans le livre de Lévitique, cela nous est rappelé au chapitre 19 et au verset 18, il nous est dit ceci. C'était quand même la loi, pas l'oublier. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Alors, je ne sais pas si ça voulait dire qu'avec les autres, c'était différent, mais toujours est-il que ça nous est ramené, ça nous est rappelé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'évangile avant l'évangile, hein, en quelque sorte. Et il est dit, je suis l'Éternel, c'est moi qui te le dis. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, au verset 22, il est dit, alors ça c'est à nous souvenir, ne dis pas, je rendrai le mal. Non. Je pense que, déjà, c'était une notion qui était inculquée à l'ancien Israël. Alors, je crois que l'Église a besoin de l'entendre, le chrétien d'aujourd'hui, de ne jamais dire « je me vengerai ». Et parfois, il y a, je le présume, dans certaines circonstances conflictuelles entre des enfants de Dieu, peut-être parfois, il y a l'envie de se venger et de dire « eh bien, moi, je lui rendre ». Vous vous souvenez, hein, la loi du talion. Alors, « je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera ». Ce sont des citations bibliques, hein, que je suis en train de rappeler. « Espère en Dieu et il te délivrera ». Donc notre confiance, elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans notre justice, dans ce que nous croyons être bien, bon, juste, normal. Mais elle est dans le Seigneur. Parce que lui, il connaît l'endroit et l'envers. Il connaît l'arrière et le devant. Il connaît en haut et en bas. Il connaît tout d'une situation. Mais nous, nous avons qu'une vision très, très partielle d'un conflit. On sait ce qu'on a souffert, mais c'est très, très limité. Alors Jésus élève le débat à un haut niveau de réflexion pour le transformer en action. Parce qu'il ne s'agit pas de le savoir, maintenant il faut le vivre. Et c'est ça le sermon sur la montagne. Nous l'avons vu déjà précédemment, les béatitudes, hein, support de l'humiliation et de la souffrance, des manquements, mais notre espérance va vers le Seigneur. Quand il est question du sel et de la lumière, nous avons touché des choses très très concrètes lorsqu'il était question précédemment, eh bien, de la loi et la grâce, la colère et le meurtre, et puis le divorce et l'adultère, et puis le parjure. Tout ça, ce sont des choses concrètes et des choses, il faut bien dire, qui existent. Qui existent. Donc, il ne s'agit pas de le savoir, mais de le vivre. Dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas tant d'empêcher le triomphe de l'injustice et de l'oppression, mais le but à atteindre est de faire en sorte, écoutez bien, de faire en sorte que notre attitude chrétienne, c'est elle qui va tout déterminer, de transformer le mal en bien, selon ce que l'Épître aux Romains nous dit dans le chapitre 12. Et on va le voir d'ici quelques instants. Oui, c'est vrai que la victoire, ce n'est pas de triompher, je l'ai dit, contre ce qui est injuste, ou tout simplement les oppressions qui sont là pour nous scandaliser et qui nous révoltent parfois, mais de faire, en raison de ce que nous sommes chrétiens, en raison des conseils que Jésus nous laisse, de leur mise en pratique, de changer le mal en bien. Et c'est ça le triomphe de Dieu. Et c'est ça le triomphe de l'Évangile. Et vous allez voir pourquoi. Je en parlais d'ici quelques instants, parce que, permettez-moi de le rappeler, la guerre amène la guerre, on est d'accord. Le mal conduit au mal. Et tout ça, c'est une spirale qui nous entraîne dans l'enfer. Toujours plus bas. Alors que cette loi d'amour, aimer ses ennemis, aimer son prochain. Ce caractère chrétien d'inspirer d'en haut, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, transforme la nature même des choses. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix, hein. Le triomphe de la croix et de Golgotha, c'est quoi? C'est ça, précisément. Donc, dans Romains, il est bien dit, et je le rappelle pour mémoire, il est bien dit, mais si ton ennemi a faim, tue-le. Non, s'il a faim, tu lui donnes à manger. C'est ça? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, et là nous arrivons à l'action, car en agissant ainsi, si tu fais ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors vous allez dire, oh là là, il va se brûler, hein. Je suis content. Non, c'est pas ça. C'est pas comme nous le pensons. C'est parce que justement, à ce moment-là, en lui faisant du bien, ça va l'amener, ça va le provoquer à une réflexion, ça va le désarmer. Et il va s'attendre à ce que vous lui répondiez avec les mêmes armes qu'il a utilisées contre vous. Mais comme vous n'allez pas faire de cette manière, il va être complètement désarmé. Il va dire, mais c'est, ses armes et ses intentions mauvaises vont être complètement, eh bien, là, inopérantes. Il ne pourra rien faire. Puisque vous lui avez fait du bien, il va être complètement chamboulé. Il ne va plus savoir où il en est rendu, hein, le pauvre. Et c'est ça, justement, la force de l'Évangile. On vous fait du mal, faites du bien. On dit du mal de vous, eh bien, répondez par de bonnes paroles. Soyez bienveillants. Ne soyez pas des maldisants. Mais des gens qui disent du bien, qui apportent la bénédiction et pas la malédiction. Le mal et le bien, dans les deux mots. Alors, Jésus nous enseigne quelque chose de formidable. Je l'ai dit, un révolutionnaire. Parce que cela tient d'un autre ordre que l'ordre naturel et, je dirais, habituel et spontané de la nature humaine. Trop souvent, si souvent, les hommes conquièrent le pouvoir sur leurs semblables par la force, en utilisant la violence et la contrainte. C'est comme ça, hein? C'est inné chez nous, c'est une réaction, c'est comme cela. À l'inverse, selon les enseignements du Sermon sur la montagne, l'enfant de Dieu gagne par la force de l'amour. Et c'est pas gagné d'avance, hein? Quand on souffre, quand on vous a fait du mal, c'est pas gagné. C'est une arme, nous dit Jésus, nous explique Jésus, incomparable et déconcertante pour qui en est l'objet. Il s'attend à ce que vous lui répondiez de la même manière, et œil pour œil, dent pour dent, et finalement, vous allez lui faire la démonstration que vous l'aimez. Non pas parce qu'il vous a fait du mal, vous l'aimez, mais parce que c'est une créature que vous avez un autre but. C'est que, on va le découvrir, il soit transformé, changé par votre attitude. Vous allez casser l'escalade du mal. Vous allez couper l'élan de l'adversaire et vous allez désarmer celui qui vous fait face. Le disciple digne de son maître, et notre maître c'est Jésus, qui nous enseigne ce que nous avons devant les yeux. Eh bien, ce disciple est inspiré par la loi d'aimer son prochain. Et vous savez comment? Comme il s'aime lui-même. Et on s'aime? Non? Je ne sais pas. Vous vous aimez? Ben, on a quand même, enfin, on ne va pas se le dire, hein, je m'aime. Ça se fait pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que on a quand même un petit peu de considération pour nous. Alors, nous sommes renvoyés à nous-mêmes en disant, ben voilà, tu vois l'autre, ben c'est ton semblable. Alors, si tu t'aimes, si tu as un peu de respect pour toi-même, peut-être un peu de respect pour lui. Alors qu'il ne t'a pas respecté, hein. Mais, ça nous amène à autre chose. Et si nous faisons ces choses, dans cette démarche d'aimer, et puis d'aller dans cette action. Nous ne devons pas le faire, non dans la pensée ou l'arrière-pensée de défendre ses droits et ses intérêts en disant « je vais être diplomate, je vais être démagogue, je vais l'avoir quand même » en utilisant l'hypocrisie. Attention, hein, parce que c'est pas ça. Si Dieu et si Jésus nous demande d'aimer, c'est un amour sincère, véritable. C'est pas du cinéma que nous faisons. Mais c'est pas dans cette arrière-pensée de défendre ses droits et ses intérêts, mais l'honneur et la gloire de son Dieu, de notre Dieu, de mon Dieu d'abord. Selon les principes que Jésus nous enseignait. C'est sa parole qui dirige notre vie. C'est elle qui va conditionner notre volonté, qui va cadrer notre cœur, qui va maîtriser notre vie, notre âme, en quelque sorte. Mais je le fais non pas pour dire j'ai raison, et j'aurai raison quand même si je le prends par l'arrière d'une manière habile, et puis, comme je viens de le dire, mais je le fais d'abord, parce que c'est mon Dieu qui me l'a demandé. Parce que je crois que Jésus a raison. Et je sais que je serai toujours vainqueur dans ce domaine-là si je mets en pratique ce qu'il me dit. Et c'est pas évident. Il faut bien le remarquer. D'ailleurs, vous savez ce que Jésus nous dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et j'ajoute, je paraphrase, la gloire de votre Dieu, la justice de votre Dieu, la manière de penser de Dieu. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous sont redonnées par-dessus. Et entre autres, chez ces choses qui nous sont données par-dessus, c'est la justification dans nos conflits et dans nos... C'est Dieu qui va nous donner et il va nous libérer. Alors Jésus enseigne la bonne réaction. Au verset 39 et 42, il est dit ceci, je le rappelle. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. qui se résume, quelques versets qui se résument par cette expression aussi troublante qu'inédite, « Je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. » On a l'habitude quelquefois de dire, « Eh bien, ah, il m'a fait du mal, moi je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. » Enfin, c'est une expression, hein, je ne sais pas. Hein. On parlait de charbon ardent, c'est déjà la préparation pour que vous compreniez. Mais toujours est-il que c'est révoltant ce que nous dit Jésus. Je n'ai même plus le droit de me défendre et j'ai même plus le droit de lui régler son compte alors qu'il a été odieux. C'est révoltant, c'est vrai. Alors comment pouvons-nous nous y prendre pour y parvenir? Il y a quatre types à considérer dans ces versets que nous avons lus. Le premier type, c'est lorsque nous avons à faire face aux hommes méchants. Jésus nous dit, on t'a giflé? Tu tends l'autre joue. Ça vous choque pas, non? Parce que, humainement parlant, vous recevez une gifle, vous fermez la main, et là, c'est plus une gifle. Ça s'appelle un coup de poing. Il faut quand même faire plus fort, parce qu'au moins, ça va le calmer. Donc, première chose, face aux hommes méchants, Jésus nous dit, présente-lui l'autre joue. Faisant face à l'injustice, et il y en a dans notre monde, il t'a pris ta chemise, tu lui laisses encore ton manteau, alors donc vous allez repartir tout nu, hein. Ben oui, la logique, c'est comme ça. Il a déjà pris ma chemise, je ne vais quand même pas lui donner le reste. Jésus lui dit, tu lui donnes ton manteau quand même. Dans Exode, il est dit, chapitre 22, « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, te lui rendra avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi parce que tu lui as pris ce qui était vraiment important pour lui, alors, il criera à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Ce que nous aurons à faire, non pas à un homme, mais nous aurons à faire à directement, eh bien, à Dieu qui va traiter le problème. Il ne faut pas tomber entre les mains de Dieu, à cause de nos injustices. Mais Jésus dit, il t'a pris ta chemise, donne-lui le reste. Lorsque nous sommes confrontés à faire face aux obligations, les obligations, il y en a beaucoup dans notre monde. Jésus dit, si quelqu'un te force à faire un mille, un kilomètre, si vous voulez. Le mot « forcer » est un verbe d'origine persane qui implique le droit qu'a une autorité d'obliger un citoyen d'exécuter une tâche officielle. C'est la notion de réquisition. Je suis réquisitionné. Alors ça peut être l'État, ça peut être je ne sais quelle instance qui gère la vie sociale, la vie collective des hommes. Et il est dit, bien, si on te demande de faire ceci, tu vas le faire, mais tu ne vas pas en faire qu'un, tu vas en faire deux. Tu vas montrer de la bonne volonté que tu es capable d'aller encore plus loin. Quatrième type de réflexion, c'est face aux demandes diverses. Donne à celui qui te demande. C'est-à-dire, ne refuse pas. Tu donnes sans résister. Tu donnes sans maugré. Parce que si tu donnes en maugréant, ça ne sert à rien, ce don n'a pas de valeur. Donc voilà, quatre types. Je poursuis. Le disciple chrétien est encouragé à faire plus que le nécessaire, on l'a vu, voire aller au-delà, même lorsque ses exigences sont, qu'est-ce que vous entendez par là, injustes. Ah oui, parce que la claque, le manteau, et puis en disant, on me réquisitionne pour faire ceci et cela, moi je pourrais faire autre chose, et puis ça me concerne pas, même lorsque ses exigences sont injustes. Cette pensée divine inspirée, eh bien, aux antipodes de l'esprit qui s'attache à se venger, ou au ressentiment, ou à l'amertume. On peut éprouver de l'amertume, de l'aigreur. Mais ce que nous dit Jésus, eh bien, c'est le contraire, finalement. Ça, c'est le caractère du roi en son royaume, et c'est un caractère logique et normal que le roi de ce royaume, c'est-à-dire notre Dieu, attend de ses sujets que nous sommes, et de ses disciples, dans ce royaume. Est-ce que Dieu attend autre chose de nous? Non, il attend que nous soyons comme lui veut que nous soyons et que nous nous comportions dans cette attitude. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est notre roi et celui qui nous précède et qui nous a précédés dans toutes ces choses que nous sommes en train d'étudier et il les a vécues pleinement, il nous a dit qu'il est doux et humble de cœur. Quand on a la douceur, c'est facile et quand on a l'humilité de cœur, eh bien c'est réalisable. L'orgueilleux ne va pas y arriver. Le présomptueux, tout celui qui gonfle un peu la poitrine n'y arrivera pas. Toutefois, un chrétien est un homme responsable et sage par une attitude d'équilibre. Et j'en viens à une autre question que vous êtes peut-être en train de penser. Alors on va encourager le méchant. Vous allez voir. C'est pas ce que Jésus dit. Il faut une attitude d'équilibre partout et en tout. Une chose que nous savons et que la Bible nous rappelle constamment, si nous ne devons jamais, au grand jamais, rendre aux méchants, nous ne devons pas pour autant contribuer à l'encourager ou à le conforter dans sa méchanceté par une attitude qu'il pourrait interpréter comme finalement, eh bien là, une soumission ou une lâcheté de notre part en disant voilà, ben hein, tu veux mon manteau, ben je te donne tout le reste. Non, c'est pas ça. Nous n'avons pas à rendre aux méchants. Et d'un autre côté, nous savons que nous n'avons pas forcément à l'encourager, à continuer à être comme il est. Prenons bien garde que par nos actes, nos paroles et réactions, nous ne participions pas au péché d'autrui. C'est aussi un autre aspect de ce que Jésus nous enseigne dans les quatre types que nous avons vus. Nous ne voulons pas partager. Et nous ne voulons pas nous commettre, nous ne voulons pas nous compromettre avec les péchés de nos semblables. C'est la sagesse et le bon sens de l'esprit, car seul le Seigneur peut nous rendre intelligents, il peut nous rendre perspicaces par un cœur tendre et un esprit ferme. Et c'est ça la grande différence. Son esprit va nous donner cette capacité de réaliser, de comprendre, avec cette compassion, avec ce qui fait les sentiments de Christ en nous, mais un esprit ferme. C'est clair, net et précis. Il est bien dit, hein, soyez prudents comme des serpents, mais sages comme des colombes. Un chrétien, c'est pas quelqu'un de béat, en disant, bah, amen, amen. Voilà. C'est pas du oui-oui béni, hein. C'est autre chose que ça. Et Dieu est capable de nous donner si nous lui demandons. Est-ce que nous demandons de la sagesse? Est-ce que nous demandons de l'intelligence, de la perspicacité, du discernement? Comment nous comporter dans des situations conflictuelles? Comment réagir pour vivre l'évangile? Pour vivre le sermon sur la montagne? Mais le Seigneur va nous le donner. Mais ça demande justement de nous tenir à ses pieds. Et de lui dire devant telle situation, eh bien Seigneur, c'est un problème, qu'est-ce que je dois faire? Et puis jamais me précipiter à répondre et à m'engager. C'est lui qui va me donner et c'est lui qui va préparer les circonstances. Je vous envoie, nous dit Jésus, comme des brebis au milieu des loups. Et attendez, hein, c'est pas la tendresse dans notre monde. Hein. Et quelquefois, je le dis avec un grand regret et peut-être aussi c'est une souffrance. Mais parfois, nous pouvons trouver des loups aussi dans l'Église, excusez-moi de le dire. Et des gens qui font pas de cadeaux aux autres. Hein. Je ne sais pas quel esprit les anime, enfin, en tous les cas, c'est pas l'esprit de Jésus. Hein. Ça, c'est clair. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus nous dit, sans préciser, mais je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et notre monde est un monde de loups. Alors, faut faire attention, parce que d'un côté, nous devons avoir cette attitude qui va glorifier le Seigneur par notre caractère même. Cette imprégnation de son esprit en nous, dans un cœur tendre et un esprit ferme. Mais d'un autre côté, on ne participe pas au péché des autres. Le verset 43 et 48. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est une magnifique conclusion, naturellement. On cherchera en vain, si les hommes l'ont dit oui, si les hommes ont interprété la loi de Moïse, oui, mais on cherchera en vain dans la loi même de Moïse le commandement de haïr ses ennemis. Parce que le Dieu de l'Évangile, c'est aussi le Dieu de l'Ancien Testament, et qui est le créateur de toute créature, et qui est aussi le rédempteur. Il veut les sauver. Alors, la différence, pour faire la différence, elle doit être bien claire dans notre esprit entre le péché et le pécheur. Donc, bien au contraire, la loi enseignait à aimer l'étranger et à aider ses ennemis dans le besoin. Quand on regarde, par exemple, ce simple texte, hein, au chapitre, c'est le chapitre 23, d'Exode, il dit « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Ça fera peut-être une occasion de régler les comptes. Hein. Au moins, si vous ne pouvez pas vous rencontrer, hein, ça sera le bœuf ou l'âne qui va servir de prétexte. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Donc ça, ça, quand même, ça s'appelle aussi aimer ses ennemis, hein, à faire des choses comme ça. Je suis content parce que son bœuf, il est tombé dans une fosse. Son âne, il est en train de s'égarer. Il est en train de mourir sous la charge. Je vais le laisser, comme ça il n'aura plus de bœuf, il n'aura plus d'âne. Je suis bien content. Je ne me venge pas, mais je suis content quand même. Il y a de l'idée, hein, chez les hommes. Aussi, ce que Jésus nous commande est souvent difficile à mettre en pratique. Il faut le reconnaître. Aimer de la sorte n'est ni émotionnel, ni sentimental. C'est la vie de l'esprit en nous. Oh, que de fois nous faisons les choses sentimentalement ou émotionnellement. On dit, ben voilà, bon, on va pas faire la guerre, je te pardonne ça. Mais c'est au détriment de la justice et de la vérité. Dieu nous dit, s'il doit y avoir un règlement, c'est un règlement qui doit se faire dans l'esprit de l'évangile. Et l'évangile, c'est toujours la justice et la vérité. Ça ne doit pas être la faiblesse. Et ça ne doit pas être une excessive fermeté en disant, je vais lui faire rendre gorge. Dans les deux sens, hein, c'est mauvais. C'est pas ça. C'est une manière d'être et de faire. Nos sentiments sont difficiles à maîtriser, mais nous pouvons, avec la grâce de Dieu, aimer en acte. Je dis bien aimer en acte comme suit au verset 44, quand il est dit ceci, bénissez, aimez, bénissez, priez pour ceux qui vous font du mal, etc. Ça, c'est de l'amour en acte, tout simplement. Mais nous avons, et cela nous porte à une réflexion, une simple réflexion. Chacun d'entre nous, où serions-nous ? Je pose la question. Où serions-nous si Dieu ne nous avait pas aimés alors que nous étions ses ennemis ? On ne serait pas là ce soir, hein ? On est d'accord ? On ne serait pas là. Il nous a aimés, non pas parce que nous étions ses amis et que nous étions aimables, mais il nous a aimés parce que nous étions en révolte contre lui, conscient ou inconscient, et que nous péchions à main levée. Dans Romains, il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous lui appartenons, et il nous appartient, et que nous sommes son peuple, ses enfants. Je voudrais vous rappeler un grand principe. Dieu n'a d'ennemi que le péché, et il est venu pour délivrer et sauver le pécheur. On est d'accord ? L'ennemi de Dieu, c'est le péché. Il n'a d'ennemi que le péché, mais l'homme lui-même. Quelquefois, combien de fois on a réglé les comptes ? En, excusez-moi, comme selon l'expression, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Hein. Verset 44, il est dit à ce moment-là, enfin il est dit 45, pardon, que Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, sur les justes et les injustes. En contemplant chaque rayon de soleil. Parce que le soleil, c'est la lumière de la vie, enfin pour nous. Il faut apprendre à bannir la rancune qui entache nos cœurs, car si Dieu est riche en amour pour tous et sans exception, sur les bons et sur les méchants, avons-nous lu, celui qui veut ressembler à son Père céleste aspirera à être comme lui. Soyez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Mais comment puis-je ? Moi, là, ça nous pousse à vraiment prendre la considération et ça enlève tout orgueil de notre cœur. Que Dieu est saint, il est juste, il est vérité, et moi, qu'est-ce que je suis ? Je suis rien du tout. Et pourtant, il nous a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça augmente tout de suite, ça met le niveau un peu plus haut. La conclusion, je finis. Or, lui ressembler, puisqu'il est question d'être comme notre Père céleste, or, lui ressembler, en trois points, bref, Dieu est saint, et Dieu est pur, et il réclame que notre perfection, entre guillemets, soit en acte, en parole et en pensée. C'est ce que nous avons dit les fois précédentes. Deuxième point, si nous voulons lui ressembler, Dieu est un Dieu qui pardonne, et nous avons nous-mêmes besoin sans cesse de pardon. On est d'accord ? Qui aurait l'insolence de prétendre devant Dieu, comme un certain personnage qui surgit de l'Évangile, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » C'est vraiment être inconscient de ce que l'on est. Hein. C'est être complètement ignorant de notre nature. Et il le dit pourtant, notre brave jeune homme. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Nous avons besoin de nous regarder dans le miroir du sermon sur la montagne pour faire le point et nous humilier devant celui à qui appartiennent la justice, la lumière et la vérité. Troisième point, dernière chose. Si nous sommes le sel et la lumière, parce que on y revient quand même, hein, l'attitude, le sel, témoignage, la lumière qui brille. Alors si nous sommes en réalité le sel et la lumière, le monde, puisque nous sommes appelés à éclairer et à donner de la saveur, le monde autour de nous saura voir dans ce christianisme-là, pas dans une religion, pas dans un ersasme de je ne sais quel comportement moral ou autre chose, mais dans ce christianisme-là, celui que Jésus nous enseigne, non un amour fait de paroles et avec la langue, mais il reconnaîtra que c'est un amour qui est en action et en vérité, selon cette parole de Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 18, « N'aimons pas en parole, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité, par là nous reconnaîtrons et nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. » Et comme il était question de la justice, eh bien, justice et vérité, ça va ensemble. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Et puis la prochaine fois, on ira encore un peu plus loin, donc dans un mois. Que Dieu nous bénisse. On va simplement terminer en remerciant le Seigneur pour simplement sa parole ce soir.